rappeler un peu le contexte de cette rencontre et puis surtout adresser les remerciements de rigueur, un remerciement d'abord à l'hôtel Pasteur de nous accueillir ici ce soir, remerciement à vous le public, venu nombreuses pour cette rencontre qui marque l'ouverture de la programmation culturelle des Archives de la Critique d'Art 2026. Particulièrement heureuse de vous ouvrir ici ce soir avec vous. Remerciements aux intervenantes invitées d'avoir traversé la France pour nourrir cette discussion. Remerciements à toi Thomas, évidemment à l'origine de la rencontre, et puis à Sylvie Montparny qui a aussi activement contribué à sa mise en œuvre. Et pour finir, merci à la ville de Rennes, hein, sans qui on ne serait pas là ce soir non plus, puisque c'est grâce à un dispositif de résidence d'artiste que c'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre, un dispositif qui nous a permis depuis plusieurs années d'accueillir déjà 4 artistes en résidence aux Archives de la Critique d'Art. Ça avait commencé en 2020, tu es le quatrième lauréat Thomas, et donc c'est une résidence d'un an normalement. On a pris quelques libertés avec le calendrier qui permet à un ou une artiste de s'immerger dans une collection et de produire une recherche créative en lien avec les collections qui sont donc dédiées à l'écriture de l'art contemporain et à ces modes d'évaluation. Évidemment, cette notion d'évaluation qui est un thème récurrent, on va dire central de ton travail, qu'on a évidemment d'abord songé à t'inviter, mais je voudrais aussi, pour préciser le contexte de cette présidence, dire que ta recherche a très vite pris une autre dimension ou a acquis une autre portée du fait même du contexte culturel et politique dans lequel elle s'est inscrite, et institutionnel, puisque nous ne sommes pas les seuls, mais comme de nombreuses institutions culturelles en ce moment, les archives de la critique d'art font face à un certain nombre de défis liés aux transformations institutionnelles, scientifiques et culturelles traverse notre époque, et cette rencontre est aussi le reflet où se fait l'écho de cette épaisseur supplémentaire, on peut dire, qu'a pris ton travail au fil de l'eau, et donc je suis très heureuse d'ouvrir cette discussion qui en marque l'aboutissement. Et je souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci.
Je voulais juste prendre la parole à la suite de Marie pour, d'une part, bien sûr, introduire ton travail, Thomas, et puis la discussion, l'échange qui va avoir lieu ce soir, en évoquant cette question de la critique, puisque ça a été aussi le moteur de ton travail et la venue de ta résidence aux Archives de la Critique d'Art. Bon, la soirée s'appelle en plus « Pour une critique sociale de l'art ». Il se trouve que la critique est au cœur des activités déployées au sein des archives de la critique d'art et de la revue critique d'art dont le titre nomme le sujet. La revue critique d'art que je vous présente ici, et j'en saisis l'occasion parce que c'est un moment de visibilité qui est aussi précieux pour faire connaître les activités éditoriales qui sont donc déployées aux archives de la critique d'art. Activité éditoriale dans laquelle on discute des livres et de leur contenu. Critique d'art, en fait, est un guide de lecture sur l'art contemporain, sur l'art actuel. Si vous ne connaissez pas déjà, c'est une revue publiée ici à Rennes. À peu près 300 livres sont référencés, débattus tous les 6 mois dans cette petite revue au format livre et surtout dans son versant électronique. Ces livres sont lus par des gens, et je ne fais pas que la promo de la revue, il y a quand même un lien avec la présence de Thomas ici ce soir. Ces livres donc sont lus par des gens qui sont souvent eux-mêmes des autrices et des auteurs de livres. Ce sont des gens, ces professionnels de la littérature critique sur l'art contemporain, qui ont besoin d'avoir accès à un état de la littérature critique pour se situer dans les débats en cours, toutes et tous partagent leurs avis critiques sur les livres et leurs avis sont publiés en particulier dans la revue Critique d'Art. C'est un espace de partage, un espace pluriel, je pourrais dire, qui véhicule des connaissances variées et qui donne accès donc à toute une diversité de savoirs allant du champ strict de l'art, de l'histoire de l'art, de la critique d'art, mais rejoignant des versants qui sont ceux de la sociologie de l'art, du terrain politique et d'autres domaines des sciences humaines. Les lecteurs et les lectrices de critiques d'art, qui je l'espère sont face à moi, ce soir sont des personnes qui ont un réel intérêt pour ceux qui se pensent, on va dire, dans l'art et sur l'art. Et la revue, souvent, joue ce rôle d'évaluation, on va dire, de jugement critique, qui recherche justement les lecteurs et les lectrices. Les articles au sommaire de la revue sont soumis à l'interprétation des auteurs, des autrices. Nous sollicitons leur regard critique et leurs avis donc viennent nourrir, comme je disais tout à l'heure, les débats. Et les articles se situent donc quelque part entre l'évaluation, mot cher à Thomas, et la recension critique. Et c'est pour cette raison que Thomas, justement, est venu toquer, entre autres, à notre porte en faisant cette résidence aux archives de la critique d'art, puisque la question de l'évaluation l'intéressait. Et au sein de la revue Critique d'art, l'idée de faire évaluer le livre par des évaluateurs, enfin des gens qui proposent justement eux-mêmes un regard critique émanant de la pratique d'écriture critique, amener un cercle un petit peu incestueux, enfin voilà, qui intéressait pas mal Thomas, qui a participé à différents jurys, à des comités, observant nos pratiques. Et l'idée de Thomas au départ avait été en particulier au début d'évaluer les contenus qui font eux-mêmes l'objet d'évaluation dans la revue Critique d'Art. Je pense que Thomas aurait bien aimé s'installer dans un numéro de Critique d'Art, mais on l'a invité à élargir un petit peu son prisme et à observer les fonctionnements de la structure plus largement. Mais en tout cas, voilà, évaluer l'évaluation, questionner ce sujet critique, qui plus est, comme le disait Marie, dans une institution qui elle-même s'interroge sur justement ce qu'est ce positionnement critique dans un présent lui-même en crise, ou dans une structure elle-même face à certaines questions critiques. Voilà, un cercle encore très, voilà, qui a lui-même beaucoup de choses qui t'ont intéressé. Et si j'ai pris soin de parler de ces questions d'évaluation critique, c'est que les deux personnes ici présentes sont elles-mêmes, je pense, très en prise avec les questions actuelles, politiques et critiques de l'État, qui bouclent la boucle. Donc je vous laisse la parole. Et l'idée de la rencontre de ce soir, et je pense, enfin tu vas le confirmer, que vous soyez aussi dans l'échange, si vous le souhaitez, en animant les choses avec vos propres pensées critiques.
Merci pour ces deux introductions. Donc, je vais pareil, vous expliquer un chouïa le contexte. Ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Thomas Tudou, je suis artiste. Et effectivement, les questions de l'évaluation sont omniprésentes dans ma démarche artistique. Et quand j'ai eu l'opportunité de faire la résidence aux ACA, en fait, finalement, je me suis assez peu intéressé au contenu de ce que contient cette institution, des archives, même si je les ai utilisées pour faire des recherches, mais c'était vraiment une résidence en institution et m'intéressait à l'institution elle-même qui m'a intéressé. Sachant que c'est une institution, comme il vient d'être dit, une institution critique qui réfléchit sur les mondes de l'art, et donc ça m'a intéressé d'être dans l'institution critique pour critiquer les mondes de l'art et réfléchir à cela. Et donc, mes recherches ont beaucoup porté sur la critique institutionnelle, la question de l'évaluation, comme on l'a vu, donc évaluation par les pairs, évaluation par les publics, évaluation par les tutelles. Et voilà, c'est un peu tout ça qui a irrigué, en fait, toute ma réflexion au sein de cette résidence. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes ces recherches m'ont amené donc, à inviter ce soir Marjorie Glas, qui est donc socio-historienne et maîtresse de conférence à l'Université Lumière Lyon 2. Elle est l'autrice de « Quand l'art chasse le populaire », socio-histoire du théâtre en France depuis 1945, qui est édité chez Agon. Je n'en dirai pas plus, elle va se présenter dans un instant. Et donc, Mélio Villemot, qui est plasticien et chercheur en sociologie des arts et du travail créateur, membre de l'ABUSE, et qui a donc publié « Les artistes peuvent-ils faire autre chose de l'art ?» Enquête auprès de créateurs démissionnaires des réseaux institutionnels de l'art contemporain, publié en 2025 chez L'Harmattan. Alors moi, je ne suis pas théoricien, et ce qui fait que pour introduire pourquoi j'ai décidé de réunir ces personnes ici aujourd'hui, c'était plus, j'avais plus envie de m'appuyer sur un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. J'ai exposé en 2020 dans une institution en banlieue parisienne. Super exposition, c'est très bien passé, l'accueil était super, etc. Peu de temps après l'exposition, je croise une amie artiste qui a également exposé dans cette institution. Et elle me dit, vraiment, c'était super, le directeur, il est génial, ben, tout s'est bien passé, avec l'ensemble des personnes, le lieu est chouette, etc. Mais elle me dit, par contre, je suis quand même triste, il n'y a personne qui est venu. Et moi, là, je la regarde, je lui dis, ah bon, je suis hyper surpris de ce que tu me dis, moi, il y a eu 2500 visiteurs, enfin, plein de monde, quoi. Et elle me dit, bah non, mais tu vois bien ce que je veux dire. Sous-entendant que c'est en banlieue parisienne, mais il n'y a pas de professionnels du milieu de la culture parisien qui sont venus voir l'exposition, et donc pour elle, elle sous-entendait qu'il n'y avait personne qui était venu voir l'expo malgré ses 2500 visiteurs. Là-dessus, je te laisse la parole. Alors, juste, les intervenants vont avoir chacun 35 minutes. Et ensuite, la parole sera à la salle si vous avez des questions à leur poser.
Alors, je mets un petit chronomètre. Eh bien, merci pour ce passage de relais un peu abrupt. C'est pas du tout abrupt parce que je vais pouvoir vous raconter pourquoi j'ai travaillé sur cette question. Alors moi j'ai travaillé pas tant sur la critique que sur la place du public dans ce qui fait la valeur du monde. Et j'ai travaillé spécifiquement sur le champ du théâtre public. Donc, je vais vous parler du théâtre, mais ce qu'on se disait en fait avec Thomas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait transposables globalement au secteur public de la culture. Donc puis on en reparlera peut-être après. Alors moi, le choix de cette recherche, il émane d'une expérience qui est en fait assez proche de ce que tu viens de nous raconter. Moi, avant d'être chercheuse, j'étais administratrice d'une compagnie de théâtre. Donc administratrice, je m'occupais de la production, de la recherche, du financement, etc. Et je m'étais engagée dans ces métiers de l'administration culturelle, plus généralement dans les métiers de la culture, parce que j'avais, pour moi, ça permettait de combiner à la fois mon amour du théâtre et puis l'idée que, en tout cas, j'avais en tout cas envie de changer le monde avec mon activité professionnelle. Et j'avais le sentiment, un peu naïf, mais qui était très fondateur pour moi, que l'art pouvait changer le monde ou aider, en tout cas, à transformer un peu le regard qu'on a sur le monde et quelque part aider à des bifurcations, etc. Et donc j'ai travaillé en compagnie, et puis assez rapidement j'ai fait face à un certain désenchantement, puisque je me suis aperçue qu'on travaillait des années pour produire une pièce de théâtre, et puis que le jour où finalement de la première, le jour où on jouait enfin devant un public, on présentait le résultat de tout ce travail de plusieurs années à un public, au fond, ce qui nous intéressait, c'était pas tellement ce que les spectateurs en pensaient, ou en tout cas la manière dont ils auraient pu être chamboulés ou transformés par cette expérience qu'on leur proposait. Mais ce qui nous intéressait, c'était plutôt de savoir combien il y avait de programmateurs dans la salle, combien il y avait de journalistes, parce que c'était des enjeux qui nous permettraient évidemment économiquement de rentabiliser le spectacle et puis de le montrer, etc. Je raconte ça pour montrer en fait qu'il y a un paradoxe extrêmement fort dans le monde du théâtre, et je pense qu'il l'est aussi dans toute une fraction des arts visuels, qui est un paradoxe, qui est une contradiction en fait très forte, que, qui est liée au fait que les gens s'engagent dans ces métiers avec cette idée que l'art a quand même un rôle social à jouer, au moins un rôle à jouer auprès de la population, mais qu'en réalité, nos métiers, en tout cas les professions artistiques et culturelles, elles sont recentrées sur des enjeux propres. Alors c'est normal de voir un secteur professionnel recentré sur des enjeux professionnels propres, mais c'est un peu problématique quand il s'agit d'un secteur professionnel qui est financé par l'argent public au nom de sa capacité à émanciper les individus, à créer du lien social, etc. Et donc moi, c'est cette contradiction que j'ai essayé de comprendre, puisqu'elle me mettait aussi moi-même en difficulté, et elle met pas mal de gens en fait en difficulté. Donc j'ai travaillé à essayer de comprendre comment on en était arrivé historiquement à cette contradiction. Donc j'ai fait un travail, parce que c'est ma méthode, un travail socio-historique en essayant de remonter à l'après-guerre pour essayer de comprendre, depuis l'après-guerre jusqu'à la période la plus récente, quelle était la place du public qu'on pouvait donner dans les périodes de création, mais qu'on donnait aussi, quelle était la place du public aussi dans les critères d'évaluation, pour reprendre ça, dans les critères de subventionnement, puisque quand on parle de service public, on parle aussi beaucoup de subvention publique, mais également quelle était la place du public dans la reconnaissance des carrières d'artistes, avec une spécificité très forte dans le théâtre public, qui est liée au fait que dans le théâtre public, en fait, la consécration, elle s'opère beaucoup par la reconnaissance par l'État et par le degré de subventionnement par l'État. Alors, je vais essayer, du coup, en trentaine de minutes, de vous expliquer un petit peu comment se jalonne, en fait, cette histoire-là pour essayer de comprendre comment c'est parti un peu en cacahuète pour dire les choses de manière encore plus adulte. Non, je dis parti en cacahuète parce que, évidemment, vous en doutez, je spoil un peu à la fin. Ce que je montre, en tout cas, dans mon travail, c'est qu'il y a eu un mouvement de démonétisation de la fonction sociale du théâtre. Puisque, dans l'après-guerre, en gros, le secteur public du théâtre se fonde sur deux piliers principaux, sur deux enjeux fondamentaux qui sont posés comme tels par les acteurs du théâtre populaire, puisque c'est comme ça dont on parle, mais aussi par les financeurs publics qui vont venir abonder et accompagner ce théâtre populaire. Et ces deux piliers, c'est quoi? C'est d'une part la défense d'un théâtre de création, donc d'enjeux de création, avec cette idée qu'il faut un financement public pour proposer aussi des œuvres qui ne pourraient pas exister dans le secteur privé. Donc ça, c'est un premier fondement, avec des enjeux esthétiques, d'innovation esthétique importants, de soutien à l'avant-garde également. Et puis le deuxième pilier, qui est tout aussi fondamental, c'est la question du rôle social de l'art et la nécessité de l'élargissement des publics. Et ces deux piliers, ils sont équivalents après-guerre, quand on commence à se créer, en tout cas, et à s'organiser ce secteur du théâtre public. Ils se fondent après-guerre autour d'expériences qui sont menées par des troupes de théâtre qui décident de quitter Paris, avec cette idée de dire, si on veut faire un théâtre populaire, donner à l'art un rôle social, un rôle d'émancipation des individus, un rôle d'éducation, etc., eh bien, il faut déjà quitter Paris et aller dans ce qu'on appelle encore la province, ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, ça correspond presque. Et donc ces troupes-là sillonnent la France, s'implantent en fait dans des territoires plutôt ruraux en fait à l'époque, en essayant de mettre en œuvre justement ces deux piliers, en essayant d'articuler au mieux les enjeux de création, d'exigence artistique et puis de relations publiques. Ces troupes-là, elles sont portées par ce qu'on appelle des chefs de troupes, qui sont des gens qui sont intéressants parce que c'est des gens qui ont à la fois gravité dans l'avant-garde parisienne, donc c'est des gens qui sont très reconnus dans leur pratique artistique, mais c'est aussi des gens qui sont pétris de pratiques d'éducation populaire, puisqu'ils ont été, pour plein de raisons différentes, en tout cas très fortement imprégnés de pratiques d'éducation populaire, depuis le Front populaire jusque même pendant la guerre pour certains qui ont été résistants. Les pratiques d'éducation populaire, elles ont pu être très importantes dans les milieux résistants. Et donc ils vont travailler à faire un théâtre qui soit le plus lié possible à la population. Donc ça va être, par exemple, ajuster les répertoires, essayer d'aller chercher au maximum les publics en proposant du coup des pièces qui sont adaptées esthétiquement, artistiquement, très légères, qui peuvent se déplacer facilement, etc. On pense aussi les parcours des spectateurs, c'est-à-dire que les choix de répertoire, c'est pas uniquement parce que tel texte est magnifique, ou parce que j'ai envie de monter ça, mais c'est aussi se dire, ce public-là, on n'est jamais allé le rencontrer, donc on va proposer d'abord une pièce simple d'accès, on va proposer Molière, parce que Molière c'est drôle, etc. Puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on va rencontrer ce public-là, eh bien, proposer différentes pièces, etc. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, du coup, la question de la création, elle est intimement liée, intrinsèquement liée, à la manière dont on aborde le public, dont on va se déplacer auprès du public, etc. Ce travail-là, il est fait en concertation avec des relais, qui sont très importants, qui sont des relais locaux, et qui permettent aussi d'ajuster le travail de création afin de travailler à un élargissement important des publics. Et c'est ce travail-là, avec ces critères-là de création et d'élargissement des publics, c'est sur ces mêmes bases-là qu'il va y avoir les premiers financements publics émanant de l'État à l'endroit de ce théâtre public. Alors au départ, il n'y a pas encore le ministère de la Culture, mais c'est le secrétariat d'État aux Beaux-Arts à l'époque qui va financer ces troupes. Et j'ai retrouvé des rapports d'inspection, parce qu'on parle d'évaluation, fameuse inspection du ministère, n'est-ce pas? Et on dans les rapports d'inspection, on retrouve tout à fait cet équilibre-là. Je pense à un rapport d'inspection d'un gars qui s'appelle, un inspecteur qui s'appelle Pierre-Émile Touchard, qui va voir une troupe dans les Pays de la Loire qui a été montée par quelqu'un qui, pour le coup, vient plutôt du théâtre amateur local, pas non plus, qui n'a pas non plus une pratique artistique très légitime, comme on dit en sociologie. Et le rapport d'inspection est très intéressant parce qu'il dit, bon, bah, la pièce, franchement, n'est pas terrible, les montres à Molière, les comédiens sont mauvais comme tout, c'est pas terrible. Mais le public est ravi, et puis on voit que c'est un public qui n'est jamais venu voir, et puis ils vont revenir, donc on va financer. Et puis on va leur envoyer des comédiens parisiens quand même, parce que voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport très descendant, un peu méprisant, etc. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la question de la réception du public et la question de la composition aussi du public, c'est-à-dire le fait que ce ne soit pas que les notables locaux, mais qu'en fait ce soit des gens qui ne sont jamais venus au théâtre, qui n'ont jamais eu accès à ça, eh bien c'est un critère fondamental d'évaluation de ce qu'est une politique publique du théâtre. Ces troupes, elles vont faire des petits et elles vont en fait être la base de la structuration du théâtre public tel qu'on l'entend aujourd'hui, dans la mesure où en 1959, quand se crée le ministère de la Culture, il va se fonder justement sur ces troupes pour créer les centres dramatiques nationaux et donc travailler à la structuration du paysage théâtral en France, avec toujours ces deux missions fondamentales, qui est que ça doit être des maisons de création, mais des maisons aussi où on va élargir, travailler à l'élargissement des publics. Alors pour autant, si le ministère reprend à son compte en tout cas ces deux piliers, quand Malraux vient créer le ministère des Affaires culturelles, il va par contre opérer une scission qui paraît totalement contre-intuitive, ou en tout cas elle est un peu contre l'histoire et contre cette volonté du théâtre populaire, puisqu'il va séparer les espaces de relations publiques et les espaces de création, en tout cas institutionnels, hein, puisque les centres dramatiques dont je vous parlais à l'instant sont supposés, sont eux, être des lieux de création dirigés par des artistes. Et puis ils vont créer à côté ces maisons de la culture, on connaît tous, parce qu'on en a tous dans les villes dans lesquelles on habite, les maisons de la culture qui vont être plutôt vocation à être des lieux de diffusion des grandes œuvres de l'humanité, pour reprendre les termes de Malraux, auprès du grand public. Et donc on a d'un côté des centres dramatiques dirigés par des artistes, et puis de l'autre côté des maisons de la culture qui ont vocation à être dirigées par des animateurs, donc animateurs, c'est-à-dire ce qui serait un peu plus des médiateurs, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment pour mission de mettre en relation l'art et le public. J'ai oublié de préciser que dans les troupes dont je vous parlais, les membres des troupes ne s'appellent pas artistes, ils se désignent animateurs. D'accord, hein, c'est vraiment ça qui est fondateur, fondateur chez eux. Et pour eux, l'animation, c'est justement cette capacité à articuler l'art, la création et puis la relation au public. Alors pour autant, même s'il y a une scission institutionnelle qui est opérée par le ministère à cette époque-là, elle a assez peu d'effet en réalité sur les pratiques. Pourquoi ça a peu d'effet? Parce qu'en fait, ces maisons de la culture, comme ces centres dramatiques, en fait, ils sont dirigés par ces animateurs qui se sont formés dans les troupes. Donc en fait, ils continuent, dans tous ces lieux-là, tout au long des années 50, 60, à avoir des pratiques qui intègrent, qui articulent très 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 finement la question de la création et la question de l'animation, comme on l'appelle à l'époque, c'est-à-dire la question de la relation au public et de la nécessité de toucher le public. Alors je voudrais vous donner quelques exemples de un peu ce qui peut se faire à l'époque, justement, pour que ce soit un peu palpable. Alors peut-être préciser aussi déjà que dans ces lieux-là, dans les maisons de la culture, elles sont dramatiques. Maisons de la culture, d'ailleurs, dont je précise que ce sont des lieux pluridisciplinaires. Donc, il y a du théâtre, mais il y a aussi des expositions, puisqu'on parle d'art visuel, c'est bien de le préciser. Il y a aussi des médias, c'est aussi des lieux de livres, etc. Donc, dans ces lieux-là, déjà, il y a souvent, il est assez fréquent de voir des sociologues affiliés. Pourquoi? Parce que la question de la connaissance des publics, elle est fondamentale. Donc, on s'intéresse pas seulement au fait de remplir les salles d'expo, etc., mais on s'intéresse aussi à la composition du public, pour s'assurer qu'on fait venir le public qui ne vient pas d'habitude. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a toute une série de choses qui peuvent être mises en place. Alors, attendez, je vais prendre une petite note. Tout d'abord, il y a la question de l'ajustement des thèmes, c'est-à-dire qu'on va travailler des thèmes qui vont intéresser le public. Donc il y a tout un travail là-dessus. Je pense par exemple à un metteur en scène, animateur, pardon, on n'appelle pas metteur en scène à l'époque, qui va travailler en Lorraine, qui font le théâtre populaire de Lorraine, et qui arrive en fait, qui décide d'aller jouer en usine auprès des ouvriers, c'est un militant communiste de la première heure, etc. Et il commence à jouer Brecht, qui est le grand auteur communiste supposé émanciper les masses, Et en fait, il s'aperçoit que les ouvriers se font chier, c'est le terme qu'il utilise en entretien quand je le rencontre, et qu'au fond, ne viennent que les camarades du parti, par solidarité entre bon, ça, c'est un peu un artiste, le camarade artiste qui vient faire tous ces trucs. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va travailler à une création autour de l'acier, du travail de l'acier, à travers la création d'une pièce qui s'appelle Minette la bonne Lorraine. Minette, c'est le nom de l'acier qu'on donne en Lorraine, pour essayer d'intéresser les ouvriers. Et c'est en fait une pièce qui va avoir un succès très important, qui va tourner en fait dans tous les foyers sidérurgiques de France, mais aussi de Suisse, d'Allemagne, etc., parce qu'ils sont en Lorraine, ils jouent aussi du caractère frontalier de leur position. La question des spectateurs aussi, la place des spectateurs, elle est réfléchie dans les créations. J'ai retrouvé des archives dans lesquelles on a des artistes qui vont qui créent une pièce, par exemple, et qui vont tester la pièce auprès du public. Avec des retours, là je m'ennuie, là les costumes sont un peu moches, là c'est compliqué, on comprend rien, etc. Et les pièces sont ajustées aussi aux capacités, aux possibilités en tout cas, ou au goût aussi du public. Alors j'aime bien cet exemple-là parce que on en parlait tout à l'heure, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, ce type d'exercice, ou en tout cas le fait par exemple d'écouter, de prendre en compte l'avis du public, va être perçu comme quelque chose de démagogue, de populiste, perçu comme une restriction de la liberté de l'artiste. Alors qu'à l'époque, pour le coup, c'est quelque chose qui est tout à fait intégré, la question du public étant absolument centrale dans la mission qui sont données à ces artistes, mais que ces artistes également se donnent. On va avoir également, par exemple, le fait, ça c'est depuis les débuts, le fait d'aller jouer dans d'autres types de lieux, ou d'aménager les lieux, par exemple. Je pense à l'hôtel de Caen, nouvelle maison de la culture qui est construite, qui est en fait un énorme bâtiment, très impressionnant, et en fait le directeur, qui est un fervent militant d'éducation populaire, va d'abord construire un bar, en se disant, les gens vont finir par venir au bar, alors les gens viennent au bar, mais ils vont pas dans la salle de spectacle, donc petit à petit, les spectacles vont d'abord avoir lieu dans le bar, pour pouvoir réussir à faire venir du monde, etc. À chaque lieu, à chaque espace, à chaque artiste, à chaque territoire, sa manière d'inventer en tout cas des choses pour articuler ces questions de création et ces questions de relations au public. Avec encore une fois toujours l'idée de penser aussi des parcours de spectateurs et d'ajuster très finement les programmations, etc. pour que chacun y trouve son compte et pour pouvoir enfin toucher le public qu'on n'arrive pas à toucher. Alors, je peux préciser peut-être qu'il y a des débats, évidemment, entre tous ces artistes, notamment autour de quel public on doit toucher. Certains, qui sont souvent plus proches des mouvements d'éducation populaire, chrétiens, etc., plutôt dans des logiques de dire il faut toucher toute la population, parce que nous, notre rôle, c'est de rassembler la population et que l'art, c'est un outil d'unité, en quelque sorte, d'unité nationale après-guerre, ou en tout cas de rassemblement de la population autour d'un référentiel commun. Et puis il y a toute une fraction de ces artistes qui est beaucoup plus politisée, on est dans les années 60, c'est un grand moment de politisation, et qui eux vont considérer qu'au contraire, il faut aller chercher le non-public, et spécifiquement la classe ouvrière, puisque c'est par la classe ouvrière qu'adviendra la révolution, qu'adviendra le changement. Et donc parmi ces artistes-là, ça va être plutôt des artistes qui vont s'implanter dans les banlieues ouvrières des villes pour faire un travail particulier de relation au public. J'ai oublié de préciser qu'un des outils aussi très importants qu'il utilisait, c'est la combinaison d'artistes amateurs et d'artistes professionnels. Ce sont des artistes qui revendiquent à la fois leur caractère professionnel, notamment le fait d'être rémunérés, mais qui en même temps ne voient aucune objection en tout cas, et au contraire utilisent la pratique amateur comme un outil d'intégration à la pratique artistique, aux enjeux de la création, etc. Et c'est même quelque chose qui est pour eux considéré comme tout à fait indissociable, là où ils ont un ministère qui essaie d'opérer une séparation très nette, très institutionnelle, entre ce qui est amateur et professionnel. Donc en tout cas, jusqu'à la fin des années 60, on est dans des mouvements de ce type-là, d'expérimentation extrêmement importante, et où la question du public, du coup, est une question fondamentale dans l'évaluation que ces artistes font de leur propre travail, mais que le ministère, malgré cette séparation, opère aussi de leur travail, puisqu'on voit dans les archives aussi du ministère que l'évaluation qui est faite du public, c'est pas une évaluation quantitative, c'est aussi la question de quelle est la composition du public, qui vient, qu'est-ce que ça leur fait les spectacles, etc. Il y a même ce qu'on appelle des études de réception qui sont faites, pour savoir si les spectacles ou si le travail qui est mené dans ces maisons de la culture, fait quelque chose aux gens. Alors, paradoxalement, c'est en mai 68 que les choses vont se renverser. Alors, c'est paradoxal, évidemment, puisque mai 68, c'est un grand moment de politisation de l'art. On va essayer de redonner encore plus à l'art une dimension politique, un rôle social, politique, etc. Et c'est paradoxal, puisque c'est après mai 68 qu'on va voir s'opérer véritablement, cette fois, une scission entre les enjeux esthétiques et puis la question des publics, avec petit à petit une délégation de la question du public à un personnel spécialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les artistes vont déléguer cette fonction de mise en relation avec les publics, de prise en compte des publics. Alors, que se passe-t-il en mai 68? Alors, arrive en mai 68, en tout cas, en mai 68, vont notamment beaucoup prendre la parole, et c'est vrai dans le cas des arts visuels aussi, des artistes qui sont plus proches d'une avant-garde, qui sont des artistes qui sont aussi plus diplômés, plus dotés socialement que les artistes qui avaient travaillé dans ces troupes à l'origine. Ces artistes-là, ce sont des gens qui sont plus diplômés, et ça a un effet, parce que c'est des gens aussi qui ont une connaissance aussi de l'histoire de l'art, des enjeux formels, esthétiques, qui est beaucoup plus poussée que leurs prédécesseurs, qui étaient passés beaucoup plus par la pratique. Et c'est aussi des gens qui sont très politisés, mais pas tout à fait politisés comme l'étaient les précédents communistes. C'est des gens qui sont plutôt d'obédience Mao, donc ils sont dans des logiques de radicalité politique assez différentes. En mai 68, toute une fraction donc de cette avant-garde artistique va critiquer ce qui était la politique culturelle qui a été menée jusque-là, mais aussi du coup leur collègues qui dirigent des théâtres, en leur disant plusieurs choses, en disant d'une part, vous avez travaillé avec la droite, ça c'est un problème, vous avez cautionné une politique culturelle de droite. Et puis la deuxième critique qui est plus vraie, c'est de dire, mais au fond, vous avez contribué en fait à imposer une culture bourgeoise aux classes populaires, là où il faudrait en fait réellement créer ensemble et puis proposer aux classes populaires véritablement de s'exprimer. Ça c'est une critique qui s'entend encore, hein, qui est très structurante aussi de l'histoire du théâtre, mais de l'histoire de l'art en général. Et donc, ils vont défendre cette idée d'un art qui doit être intrinsèquement politique et qui, du coup, doit se débarrasser de tous ces intermédiaires. Mais notamment, parmi ces intermédiaires, il y a ces fameux animateurs, tout ce travail d'animation qui, selon eux, en fait, défigure l'art et puis donne un rôle trop pédagogique à l'art qui serait condescendant vis-à-vis des classes populaires. Ça va passer beaucoup par tout un discours à l'époque. C'est une époque où, donc, début des années 70, on va beaucoup dire tout est politique, etc. Et il y a tout un discours qui va commencer à naître, qui considère que, au fond, une subversion esthétique, c'est-à-dire la subversion des codes esthétiques, alors en théâtre, c'est beaucoup par exemple la subversion des narrations, hein, dans les pièces, dans les pièces qui sont racontées, et bien la subversion des esthétiques, au fond, ce serait intrinsèquement politique. Et ce qui fait politique, c'est finalement pas tant le fait de transmettre une œuvre à un public, ce qui fait politique, c'est la subversion de l'œuvre en elle-même. Et ça, c'est un discours qui va se développer, et qui va se développer notamment beaucoup dans la critique journalistique. J'ai oublié de préciser que tout ce mouvement précédent du théâtre populaire, il avait été porté par toute une nouvelle critique très importante, qui portait en son sein aussi tout un travail autour de, non seulement de la critique des pièces, mais aussi qui travaillait sur la réception qu'on faisait au public, sur le travail qui était mené auprès du public autour des pièces, etc. Et bien toute cette critique-là, elle va se transformer tout au long des années 70 avec un resserrement de cette critique autour de la question purement esthétique. Voilà, esthétique, donc qui va être l'analyse du jeu, du décor, etc., etc. Alors, on aurait pu imaginer que les choses en restent là et que ce soit simplement porté par une avant-garde en particulier qui dirait ben voilà, il faut faire des subversions formelles comme il y en a eu à toutes les époques. Qu'est-ce qui fait que les choses vont se retourner? C'est que, en fait, toute cette avant-garde-là, eh bien, elle va être nommée à la direction la plupart des lieux, donc de la plupart de ces centres dramatiques et de ces maisons de la culture à partir de 1974. 1974, c'est quoi? C'est l'arrivée de Giscard au pouvoir. Giscard, en fait, il a à cœur de redorer en quelque sorte son blason un peu libéral. On sait que Giscard était libéral économiquement, ça n'y a pas de doute, mais c'était aussi il voulait aussi apporter en tout cas une couche de vernis libéral. Bon, l'IVG, c'est aussi sous sa présidence, mais du coup, c'est passé aussi par les politiques culturelles. Il a notamment nommé comme ministre de la culture quelqu'un qui s'appelle Michel Guy et qui, en fait, Michel Guy, il a créé le Festival d'automne, c'est une grande figure, un grand découvreur de la danse contemporaine, c'est une grande figure de l'avant-garde à cette époque-là en France. Et donc quand il arrive à la tête du ministère, il va donc nommer toute cette avant-garde à la direction des centres dramatiques et maisons de la culture. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, au sein des centres dramatiques, les artistes qui arrivent à la direction de ces lieux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont licencier tous les animateurs. Ils vont licencier tous les animateurs. Et puis, dans les maisons de la culture, alors on est censé avoir des animateurs à la direction de ces lieux-là. Et ces animateurs, en fait, on va voir leur profil se transformer. Là où auparavant, c'était des gens qui forgeaient leur réputation d'animateur sur leur capacité à élargir le public, à travailler finement cette question de la relation entre la création et le public, et bien à ce moment-là, à partir de ce moment-là, leur carrière, elle va se forger beaucoup plus sur leur capacité à repérer les nouveaux talents de l'avant-garde. Et c'est là qu'on voit émerger en fait la figure du programmateur, qui aujourd'hui est très, très importante et qui a beaucoup de pouvoir. Donc ça, c'est une première chose, ça veut dire qu'au sein des lieux, les choses changent. Il y a d'autres choses qui changent, c'est que petit à petit, le plus gros du budget va aller vers les enjeux de création, les enjeux esthétiques, etc. Et tout ce mouvement-là, en fait, il va être accompagné par le ministère de la Culture à ce moment-là, avec une transformation assez tacite des critères de financement, d'évaluation, pour reprendre ces termes. On conserve ces deux piliers, que sont la création et la question du public, sauf que autour de la création, on ne va plus tellement défendre l'innovation esthétique, mais plutôt la liberté de l'artiste, ce qui favorise aussi des logiques d'innovation, de subversion formelle beaucoup plus poussées, en fait, beaucoup plus radicales. Et puis du côté du public, en fait, on a affaire à une technicisation de la question du public avec des critères qui sont de plus en plus quantitatifs. Ça, c'est lié aussi à la transformation plus globale des politiques publiques hein, à partir des années 70. Il y a tout un mouvement de rationalisation de l'action publique à cette époque qui considère qu'on peut tout évaluer par le chiffre, par la quantification. Et donc, c'est ce qui s'opère petit à petit vis-à-vis du public. Et donc, la question de la composition du public, elle n'est pas tellement importante. Ce qui compte, c'est de remplir les salles. Et donc, ça, ça va opérer des transformations extrêmement importantes. Alors, combien de temps il me reste? Super. Ça a des effets très importants et très immédiats sur la fréquentation de ces lieux-là, puisqu'entre 1974 et 1975, on observe en fait un effondrement de la fréquentation du public dans ces lieux. Le public finira par revenir, mais ce n'est pas le même public qui va revenir. C'est-à-dire que là où le précédent travail dans les années 60 avait permis, dans une moindre mesure, mais quand même dans une certaine mesure, de diversifier le public, à partir de la fin des années 70-80, on a à nouveau un remplissage de salles, mais un remplissage de salles qui s'opère par un public de connaisseurs, qui sont très majoritairement issus des classes intellectuelles supérieures. Voilà. Ça a un effet pour autant, alors moi j'avais envie de vous dire quand même un extrait que j'ai trouvé, puisque c'est quelque chose qui sonne, qui s'avère en fait extrêmement violent pour le public populaire qui avait fini par accéder à ces lieux-là. Et je voulais vous lire un extrait que j'ai trouvé dans les archives toujours, dans les archives du Théâtre de Gennevilliers qui organisait régulièrement des échanges avec le public, etc. Et là c'est la citation de Jean qui est un électricien de 42 ans et qui s'exprime ainsi en 79. Et qui dit à la direction du théâtre de Gennevilliers la chose suivante. Je crois que vous satisfaites vos propres besoins intellectuels sans tenir compte des besoins de la classe ouvrière. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait adaptation entre votre monde à vous et le monde ouvrier. Je ne dis pas qu'il faut monter Molière ou Racine, mais au moins faire en sorte que la classe ouvrière elle puisse y venir au théâtre. Pour nous, il n'y a rien. On est rejetés. Les travailleurs qui produisent à Gennevilliers sont rejetés par le monde intellectuel. Et puis il continue en mentionnant une émission de télé qui existait à l'époque, qui s'appelait Au théâtre ce soir, où il y avait du théâtre de boulevard qui était présenté. Si tu prends Au théâtre ce soir, alors là c'est moins que les intellectuels, c'est du rien du tout. De ce côté-là, on se fout de la gueule des travailleurs, ils sont juste bons pour des trucs cons qui tiennent pas debout, où il n'y a aucune réflexion. Là c'est de la merde. Mais entre les deux, il n'y a rien. D'un côté, on prend les ouvriers pour des cons, de l'autre côté, c'est le contraire, c'est le truc où il faut réfléchir trop, le mec il s'endort. Il peut pas. Vous êtes malhonnête d'un côté comme de l'autre. Moi j'aime bien cette citation parce que ça raconte aussi les effets de cette politique et puis de cette transformation, de ce resserrement sur les esthétiques, du délaissement du public sur les individus qui se sentent méprisés socialement par des gens qu'ils avaient perçus comme étant leurs alliés aussi dans la lutte politique de cette époque-là. Alors comment ça a évolué après? On aurait pu imaginer que l'arrivée de la gauche au pouvoir transforme un petit peu les choses. Après, pourquoi pas? Alors ça ne va pas tout à fait être le cas. Alors, ça va être le cas d'un certain point de vue, puisque Jack Lang va travailler à une reconnaissance aussi des cultures populaires, qui n'aura pas été escomptée, mais c'est encore une autre histoire. Du côté du théâtre, ça ne va pas être le cas, parce qu'au contraire, le pouvoir socialiste va fonder aussi son pouvoir sur un pouvoir aussi symbolique très fort à travers la grande figure des artistes créateurs, etc. Et donc on va avoir plutôt dans les lieux institutionnels, en fait, une montée en puissance symbolique de l'artiste, et ce d'autant plus qu'avec le doublement du budget de la culture, eh bien, ces lieux-là vont avoir de plus en plus d'argent, mais vont continuer à se fonder en fait exactement sur les mêmes critères, des critères d'innovation esthétique d'abord, et puis la question des publics eh bien, continue à être un enjeu extrêmement technique, quantitatif, etc., qui se pose d'autant moins que la population française s'étant transformée, étant plus diplômée, etc., le remplissage des salles se fait assez facilement. Mais on reste sur un public, en fait, de connaisseurs. Alors, il va y avoir pour autant un mouvement qui va être lancé pour relancer, par contre, tout un travail d'action culturelle. On ne parle plus d'animation à cette époque, on va plutôt parler de médiation, etc. Donc, le pouvoir langien va notamment appeler à la formation, à la mise en place de formations au niveau universitaire, notamment pour former à ces fameux métiers des arts de la culture, tous ces masters qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, dont vous sortez peut-être, voilà. Donc, l'objectif, c'est de dire, eh bien, il faut quand même, on arrête d'être naïf et on considère qu'il faut en tout cas réintégrer la question de la médiation dans les théâtres, etc., pour permettre quand même un élargissement des publics. Mais ça se fait, alors ça va avoir deux effets. Alors, le premier effet de ces formations, ça va avoir un effet, pour premier effet, l'élitisation des recrutements de ces métiers de médiateurs. Je ne l'ai pas précisé, mais précédemment, les animateurs ou médiateurs étaient des gens qui, pour beaucoup, venaient de milieux très populaires et qui, même pour certains, il y avait beaucoup de profils de gens, par exemple, qui étaient ouvriers, qui étaient devenus animateurs de leur comité d'entreprise. Les comités d'entreprise, dans les années 70, étant très liés au théâtre, il n'était pas rare que les théâtres les embauchent pour devenir eux-mêmes les animateurs. Donc, en fait, les animateurs, c'était des ponts, en fait, très importants entre les classes populaires et puis le monde du théâtre, parce que c'était eux-mêmes des gens qui avaient fait ce saut, etc. Dans les années 80, à partir du moment où on va former à l'université, ça va élitiser le profil. Plus on monte en niveau de diplôme, plus on élitise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les métiers d'art de la culture, seuls 13% des étudiants en master viennent d'un milieu populaire. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet. Puis le deuxième effet, ça va avoir pour la montée en formation de ces métiers, va avoir pour effet de techniciser beaucoup ces métiers-là, avec notamment une segmentation des publics. On voit très souvent dans les lieux culturels en général, pas seulement dans les théâtres, des équipes de médiation qui sont spécialisées avec le jeune public d'un côté, les détenus parce qu'il y a les projets culturels prison, les malades parce qu'il y a les projets culturels hôpital, et puis une espèce de chose qui s'appelle champ social, on ne sait pas trop de quoi on parle, on comprend qu'on parle un peu des pauvres, voilà. Quel effet ça a, cette segmentation? C'est qu'en fait, ça vient invisibiliser une énorme partie de la population française que sont les classes populaires. Quand je parle de classes populaires, vous savez que les ouvriers, mais aussi beaucoup les employés, hein, c'est là qu'on retrouve le plus bas niveau de revenus aujourd'hui, qui pour beaucoup, en fait, ne passent pas par les structures relais habituels du champ social, que sont les centres sociaux, etc., etc. Et donc, en fait, ce travail d'action culturelle tel qu'il est mené par les structures, invisibilise de fait d'un côté les classes populaires et en plus ne contribue pas nécessairement à constituer réellement un public, puisque la question de la programmation, de comment on fait création, de comment la création elle peut être éventuellement adaptée au public, ben elle se pose plus tellement. C'est aux médiateurs finalement d'aller faire ce travail-là, mais les artistes le font plus beaucoup. Cette logique-là, cette structure-là, en fait, elle n'a pas beaucoup bougé depuis. C'est-à-dire que les critères, notamment de consécration des carrières artistiques, les critères aussi de consécration des directions, etc., elles se font encore beaucoup autour des projets artistiques. Et la question du public, elle continue d'exister, mais elle est, en quelque part, un petit peu secondaire. Donc, moi, le constat que je fais, c'est qu'en tout cas, les structures ont assez peu bougé, sauf que ça fait maintenant, je dirais, une dizaine d'années que ces questions recommencent à se poser de manière un peu plus brûlante. Alors pourquoi? Parce que la question des classes populaires, elle est enfin, revenue dans le débat public, pas toujours la meilleure des manières, mais elle est revenue dans le débat public, elle se pose avec la montée de l'extrême droite qui se revendique comme étant le premier parti des classes populaires. Donc ça interroge la gauche, mais ça peut aussi interroger le secteur culturel. Elle s'est posée aussi par des mouvements comme les Gilets jaunes, etc., qui viennent nous rappeler qu'il y a des classes populaires qui existent et qui ont peut-être leur mot à dire. Et donc petit à petit, cette question du public et de la nécessité peut-être d'élargir réellement les publics, elle se pose dans le secteur. Donc on voit se développer beaucoup de projets participatifs, etc., etc. Alors ça, on en discutera peut-être. La difficulté dans le monde du théâtre, c'est que ces projets participatifs ou ces projets d'action culturelle restent moins porteurs en termes de reconnaissance artistique. C'est-à-dire que c'est moins porteur que faire une exposition ou une belle création, etc. Et ils sont souvent moins financés, c'est-à-dire que ce sont des lignes de financement qui ne sont pas sur la création, mais sur l'action culturelle, et pour lesquelles on a, en tout cas dans le théâtre, des conditions de travail qui sont plus mauvaises. Donc il y a quand même un rapport de domination très fort de ces projets qui sont davantage orientés sur le public, même s'il y a quand même une évolution notable. Et je terminerai peut-être sur, en tout cas... un point de vigilance sur la nécessité qu'il y a actuellement à retravailler, à réinvestir cette question des classes populaires et à réinvestir réellement l'objet social et démocratique de l'art en général. C'est que dans le contexte actuel, l'extrême droite notamment, enfin toute une fraction de la droite aussi, très clairement, utilise cet état de fait, hein, c'est-à-dire le fait qu'au fond, le secteur... Le service public de la culture reste cantonné, quoi qu'on en dise, à un certain entre-soi social, en tout cas s'agissant des spectateurs, spectatrices habituelles, utilise cet état de fait pour critiquer et dézinguer le service public de la culture. Donc il est plus qu'urgent que le secteur artistique retrouve des alliés dans le milieu de l'éducation populaire, au sein du champ social, etc., pour essayer de repenser un art qui puisse retrouver son rôle social. Mais ça ne pourra pas exister sans qu'on revoie les critères de ce qu'est une bonne œuvre ou de ce qu'est un bon artiste. Voilà. Merci.
Donc quand même, pour un petit lien quand même entre les deux, c'était, moi ce qui m'intéressait, bah, déjà en tant qu'artiste également, c'était justement de, dans son analyse, Marjorie parle, voilà, analyser les institutions, les programmations, les directions, et finalement là, enfin, pour faire une passation très courte, et les artistes ont tout ça.
Bonsoir à tous. Du coup, moi je suis plasticien et je fais de la recherche en indépendant en sociologie du travail de l'art, plutôt dans les arts visuels. Pour me situer un peu, je suis membre de la BUS, qui est un collectif qui analyse les mondes des arts en tant que monde du travail. Je suis aussi à Travailleurs de la Retraite, qui est un collectif local à Marseille, parce que j'habite à Marseille. Et je suis syndiqué au STAC, le syndicat des travailleurs artistes auteurs. Et voilà un peu pour dire qui je suis. Et en termes de recherche, en fait, ce qui est marrant, c'est que par rapport au parcours, on a un parcours assez proche. En tout cas, moi, sur ma reprise d'études, qui vient d'un moment où c'était aussi des contradictions entre mon métier, le rôle social que je mettais dans mon métier, et la réalité de ce que je voyais, qui m'a conduit en fait à reprendre des études et à faire une enquête sur les artistes qui arrêtent l'art contemporain, que j'ai fait du coup entre 2020 et 2022 à l'EHESS en master. Et qui est publié, et si vous voulez le PDF, du livre, écrivez-moi, je vous donne, je touche rien sur le livre, du coup, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait cette enquête, et qui est un désir d'enquête, ouais, du coup, qui venait en prenant du contact dans mon entourage. On était nombreux à consacrer un temps croissant en fait, à des activités en marge des réseaux de l'art contemporain, notamment des activités militantes ou dans des pratiques artisanales, alors même qu'on avait encore de bonnes chances de réussir dans ces réseaux. Et du coup, en fait, on mettait en péril aussi nos chances de réussir dans les réseaux, alors même que c'est des métiers qui sont censés être super désirables. Et ça, il y avait une espèce de paradoxe que je trouvais intéressant à enquêter, de voir pourquoi des gens peuvent choisir volontairement d'arrêter d'être artiste. Et du coup, oui, parce que du coup, ça va bien contredire un peu cette image de l'art émancipateur, et je pense qu'il y a plein de choses qui vont se croiser, et de l'artiste épanoui qui nombre un peu les réseaux des arts visuels. Pour dire un peu les métiers des artistes, comment ils sont conçus de l'extérieur, c'est un peu des métiers qui sont censés épanouir, parce qu'on est censé pouvoir exprimer une intériorité dans une activité détachée de toute relation de subordination et assez peu routinière. On est censé être utile parce qu'on est supposé et avoir la fonction d'ouvrir des imaginaires, d'élaborer des mondes, des modes de vie alternatifs, de questionner les normes et les stéréotypes, de tisser des liens sociaux, enfin, plein de choses plutôt chouettes. C'est aussi prestigieux parce que comme on considère que ceux qui réussissent, c'est des personnes qui sont plutôt des génies avec un talent exceptionnel, du coup le fait de réussir est censé apporter énormément de reconnaissance. Et du coup, réussir en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui apparaît comme très désirable. Mais en réalité, du coup, moi ce que je ressentais, c'était que si nous on voulait travailler dans d'autres contextes, c'était parce qu'en dépit de nos efforts pour réussir dans ces milieux, on ne parvenait pas du tout à réaliser les aspirations qui nous avaient poussé à choisir cette profession. Du coup, c'est les contradictions entre les aspirations de mes enquêtés et la réalité du métier d'artiste dans les réseaux de l'art contemporain, ainsi que les moyens qu'ils mettaient en place pour essayer d'en sortir, et on va voir que c'est pas si simple, que j'ai cherché à enquêter pendant ce master. Et du coup, en posant cette question de est-ce que les artistes peuvent faire autre chose que de l'art contemporain, et la réponse est un peu non. C'est dur, ou faut être riche. Mais du coup, voilà en gros. Pour les. Ah, tu peux avancer la slide. Ah, ça c'était le début, mais on est passé vite. Contour de l'enquête. Pour définir un peu le secteur sur lequel j'ai enquêté, c'est ce que j'appelle le réseau institutionnel des arts visuels. Ça croise un peu ce que tu disais. En France, il y a le fort soutien de l'État aux arts visuels annoncé dans les années 80 à fabriquer un réseau relativement libéré des logiques capitalistes du marché de l'art et de sa spéculation, ce qui a progressivement donné naissance à des pratiques spécifiques. Et à tout un réseau d'institutions qui mêlent à la fois des institutions publiques, qui sont les DRAC, les FRAC, mais aussi des centres d'art subventionnés, tout un maillage d'associations, des écoles, les universités, et de plus en plus, suite aux investissements de l'État, des fondations privées. Du coup, c'est aussi de plus en plus difficile de parler vraiment du secteur public, parce que les fondations privées viennent prendre un relais en exerçant à peu près le même rôle, et en présentant le même type de formes qui sont aussi déconnectées du marché de l'art. C'est un réseau qui est formé par ces institutions, et moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il assume toute la chaîne de production, c'est-à-dire autant l'élaboration théorique que la formulation, le financement, des productions, la diffusion, et jusqu'à l'organisation de la réception. Du coup, c'est un réseau qui se suffit à lui-même. Et toutes ces institutions aussi, un autre point que je trouvais important, c'est que c'est des institutions qui s'inter-reconnaissent comme dépositaires des valeurs de l'art et comme les plus légitimes à définir quelles productions culturelles en sont. Du coup, elles ont besoin de personnes pour dire que tout ce qu'elles font, c'est super. Donc tout ça, ça va provoquer un désancrage du public qui vient fabriquer aussi les désirs d'émancipation des artistes. Du coup, tout ça est lié. Et du coup, c'est sur ce réseau que je qualifie d'institutionnel que travaillent mes enquêtés et moi aussi. Et au final, on est tous assez déconnectés du marché de l'art, je précise, parce que beaucoup les enquêtes sur l'art contemporain, souvent elles parlent beaucoup du marché et en fait moins du système institutionnel. Et moi, c'est vraiment sur ce point-là que je me suis intéressé. Et après, sur les personnes que j'ai suivies, j'ai suivi 9 trajectoires individuelles. Du coup, j'ai pas dit trop la méthodologie que j'ai utilisée, mais c'est plutôt de la socio. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, je suis rentré en master à l'EHESS en art, littérature et langage. Ma tutrice était anthropologue et j'ai plutôt fait de la socio. Mais du coup, c'est un peu mix. C'est quand même plutôt de la socio. J'ai suivi 9 trajectoires individuelles, c'est les personnes avec qui j'ai fait des entretiens, principalement, et qui étaient. En fait, j'ai quasiment enquêté que sur mes potes. Les trajectoires individuelles, c'est des personnes qui cherchaient à commercialiser le fruit de leur activité sous une forme plutôt artisanale. Du coup, fabrication, vente de mobilier, charpente, pain, fromage, vannerie, traiteur, agriculteur, etc. Et une trajectoire plus collective, qui est un groupe affinitaire et militant composé d'une 20aine de personnes et dont je faisais partie, qui s'est réuni pendant un mouvement social, et c'est des personnes qui produisaient plutôt des formes au sein d'organisations militantes, avec la création notamment d'une web radio autogérée, création de brochures, de banderoles, etc. Et moi, je faisais un peu volontairement le choix d'indifférencier toutes les formes que vous produisez. Et ce qui était commun à toutes ces personnes, c'est qu'elles voulaient plutôt s'éloigner des réseaux des arts visuels, pas parce qu'elles avaient cessé d'adhérer aux valeurs de l'art qui les avaient amenées dans les réseaux, mais plutôt parce qu'en fait, on avait constaté que ces conceptions, elles s'y réalisaient plutôt imparfaitement. Du coup, pour préciser un peu les valeurs dont je parle, c'est une ouverture disciplinaire et un désir d'expérimentation, indépendant des logiques de rentabilité, sans contrainte de résultat ou de rentabilité, et ça, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher dès le XVIIe siècle dans la définition de l'artiste. Une volonté d'adopter un regard réflexif et critique sur les normes sociales et les rapports de pouvoir, animé par le désir de contribuer à une transformation sociale et à l'émancipation de toutes et tous. Puis ça, c'est un peu un goubidouia de plein de textes que j'ai pu lire sur les sites de présentation de démarches de centres d'art, notamment, et que j'ai croisé ensuite avec ce que les personnes me disaient pendant les entretiens, et ça se croisait vachement. Et du coup, ouais, une démarche politique, mais aussi dans un sens de vouloir reconnaître les identités minorisées et déconstruire des catégories normatives, etc. Et tout ça, du coup, c'était des aspirations qui étaient pas mal transmises en école d'art. Et c'est tout ça qui était super dur à réaliser sur les réseaux. Du fait de l'organisation d'activités, qui repose notamment sur une organisation très élitiste et qui ne permet pas du tout de réaliser ces choses-là dans le réel. Pour vous expliquer un peu ça, je vais commencer par décrire les figures qui structurent les conditions de travail des personnes enquêtées. Et ensuite, je vais analyser point par point, petit à petit, comment ça se traduit dans les conditions de travail. Déjà, pour préciser, les personnes sur qui j'ai enquêté, c'est principalement des artistes, auteurs et autrices. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est, mais c'est un régime de protection sociale qui régit les activités des personnes qui ont des activités dites de création. Et ça s'est construit en opposition, en distinction des activités d'interprétation. Dans les arts visuels, il n'y a pas d'intermittent. Je ne connais pas assez bien l'histoire pour revenir là-dessus, mais en gros, il n'y a pas d'intermittence qui est réservée au secteur du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Du coup, on est tous artistes-auteurs. La définition de l'artiste-auteur qui fait jurisprudence, c'est celle de quelqu'un qui produit une œuvre originale. J'insiste sur ce terme qui est assez important. Ça veut dire une forme empreinte de la personnalité de son auteur. Ça veut dire qu'on est attaché vraiment à cette forme. La notion d'originalité telle qu'employée ici, elle revêt un double sens. C'est à la fois un synonyme, plus ou moins un synonyme d'authentique. C'est-à-dire que l'originalité, elle attache la création à l'auteur. C'est une œuvre qui est conçue comme continuité de sa personnalité. En fait, on accouche d'une œuvre qui est vraiment la prolongation de nous-mêmes. Et elle est aussi comme synonyme d'unique. L'originalité, elle attache en cela la qualité de l'artiste à sa fonction à faire acte de nouveauté et d'innovation. À noter que l'originalité, comme synonyme d'unique, elle doit se comprendre dans un référentiel absolu, car elle s'inscrit dans une vision téléologique du progrès humain qui postule une évolution linéaire de l'humanité qui tente à hiérarchiser les formes culturelles et les individus en fonction de leur supposé degré d'avancement. Et ça, ça va justifier le fonctionnement élitiste. C'est pour ça que je précise sur ça. Dans la continuité de cette définition de l'artiste-auteur, comme créateur à la personnalité originale, c'est un professionnel qui ne dépend pas du code du travail, on ne dépend pas des droits du travail, mais de la propriété intellectuelle. Du coup, on est juste proprio, ce qui est un peu chelou. C'est un texte qui date de 1791, donc il y a quand même du temps qui s'est déroulé. Il est temps de le réformer. Et du coup, en fait, on est juste propriétaire d'un patrimoine de l'esprit et nos rémunérations, elles se basent sur ça. En conséquence, nos revenus, ils ne résultent pas de notre force de travail, mais de l'exploitation d'une personnalité capitale dont la qualité est évaluée selon notre degré d'originalité. Ça veut dire qu'on va mettre en concurrence des personnalités capitales pour voir laquelle est la plus originale et en fonction de ça, on touche l'un. Dans l'histoire des Beaux-Arts, la notion d'originalité, elle s'est construite avec la figure du génie et la notion du talent. Des représentations qui individualisent et raréfient la compétence d'originalité. La compétence dans le talent, elle explique la réussite de l'artiste non pas par un capital social, scolaire, culturel ou économique, mais par une nature ou un don. Et ça invisibilise tous les rapports sociaux qui fabriquent la reconnaissance, etc. La figure de génie, elle raréfie le talent. Il n'y a que quelques génies engagés corps et âme dans la création qui seraient capables d'originalité. Et ça justifie qu'il y ait quelques stars et que tous les autres soient complètement invisibilisés. Du coup, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est au cœur de la codification du métier de l'artiste-auteur. Et on va voir que ça conditionne vraiment nos conditions de travail de plein de manières différentes. Je ne sais plus s'il faut changer de slide. Oui, si. Non, pas encore. On passe aux experts. Parce que moi, du coup, mon point de vue, c'est les artistes-auteurs, et j'ai une grosse critique des experts. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, bon, bref. Mais du coup, c'est un autre point de vue et une critique qui se fait comme... Du coup, l'artiste-auteur réputé propriétaire, c'est d'un capital particulier dans la mesure où notre capital, il n'a pas d'existence tangible tant qu'il n'est pas exploité. C'est un peu comme si on était propriétaire de l'idée de la bière, mais pas du houblon et pas de la tureuse. Du coup, il faut, pour valoriser notre patrimoine, qu'on produise et qu'on expose des œuvres, ce qui nécessite des moyens de production, des outils, des ateliers, des matériaux et de diffusion. Et tout ça, tous nos moyens de production et de diffusion, ils sont distribués par des experts, donc des curatoristes, des critiques, des historiennes, etc., qui administrent les ressources de l'État, des collectivités, des entreprises ou de propriétaires privés. Ces experts, ils ont la fonction de sélectionner les personnes qui représentent et transmettent avec le plus d'acuité la singularité d'une expérience, celles et ceux qui font le plus preuve d'originalité dans leurs expressions. La conception progressive de la création, elle justifie l'évaluation des experts. Car en fondant l'idée d'originalité artistique dans un référentiel absolu, ça demande de comparer le présent avec le passé, et le présent avec lui-même pour détecter ce qui innove. Et du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une énorme connaissance en histoire de l'art pour avoir la légitimité de savoir ce qui aujourd'hui est innovant. Par conséquent, c'est le principe d'originalité absolue qui impose que les formes soient validées par des experts, et le progressisme artistique, c'est l'une des conditions du pouvoir des sélectionneurs et des sélectionneuses, et par conséquent, une des conditions de l'impuissance des publics qui sont privés de leur capacité de vérité. Avec l'originalité absolue, on instaure aussi la nécessité de comparer et donc de mettre en concurrence. Ça donne un milieu hyper concurrentiel, c'est-à-dire le milieu de l'art, c'est un des milieux où il y a le plus de tournois de mise en comparaison après le sport, pour donner un peu une idée. La conception de l'originalité, elle est dans ce référentiel, dans un référentiel absolu, elle justifie donc à la fois l'externalisation du pouvoir de sélection et aussi la concurrence. Et du coup, c'est aussi un système qui tente à concentrer la réputation, parce que les experts qui circulent sur les réseaux, ils choisissent par cooptation, c'est-à-dire qu'ils choisissent en fonction de la vie de leur père. C'est-à-dire qu'une curatrice va faire confiance aux sélections de ses collègues et va choisir des personnes déjà validées, ce qui concentre mécaniquement la visibilité et la réputation sur quelques-uns et quelques-unes. Cette cooptation se justifie par la confiance que les sélectionneuses ont dans le réseau qui se reconnaît lui-même comme dépositaire de valeur de l'art. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'avis des personnes validées par le réseau est considéré comme digne de confiance. Et la figure du génie ou art talent à l'originalité, elle légitime cette conception de la réputation parce que du coup on se dit, bah oui, c'est normal que quelques-uns soient connus parce qu'il n'y a que quelques personnes qui ont du talent et la plupart sont médiocres. Conséquence sur les artistes et sur leur activité. Alors, cette organisation du travail et de la diffusion, ça a plein de conséquences sur les artistes, les conditions de travail et les formes qu'elles produisent. Du coup, je ne vais pas être exhaustif, mais je vais revenir un peu sur les principaux constats que j'ai pu faire. Déjà, il y a une précarité endémique, je pense que tous les artistes-auteurs le savent. Comme la conception propriétaire de la création, elle corrèle nos revenus, non pas d'abord à notre force de travail, mais à la valeur de notre patrimoine. Alors, nos rémunérations ne dépendent pas de la quantité de travail qu'on fait, mais de notre réputation. La concentration de la réputation sur une minorité qu'engendre la sélection par cooptation, elle précarise la très grande majorité d'artistes auteuristes, ce qui s'observe dans les chiffres des revenus des artistes auteurs. C'est un peu tout petit, mais je les ai mis là. En 2016, pour donner un ordre d'idée, les 10% des artistes plasticiens les mieux dotés se partageaient 49% de l'ensemble des revenus, ce qui est ouf en termes de concentration. Et en 2021, le revenu annuel médian était de 1500 euros par an. Là, ben, voilà. L'articulation de la conception patrimoniale de l'acte de création avec un système électif, ça concentre la valeur sur une minorité et en fait au final ça dévalue le travail de tous au profit du capital de quelques-uns. Du coup le secteur des arts visuels il repose très très majoritairement sur du travail gratuit. Il y a même toutes les expos, même des personnes que vous voyez dans des expositions sont très généralement à probablement en dessous de 1500 euros l'année pour leur travail artistique. L'organisation des réseaux, ils uniformisent aussi les œuvres qui y circulent. Comme les professionnels experts du réseau, ils peuvent alternativement exercer des activités de plasticien, théoricien, d'historien, de critique, curater ou visiter des expos, enseigner, choisir des œuvres pour constituer les fonds. Tout ça, ça fait une espèce de tissu très très connecté et qui est assez restreint en termes de nombre. Et c'est un groupe d'individus multitâches qui cooptent à force des 100 changes, en fait, au final, les mêmes personnes et qui évaluent de la même manière. Et ça, sur l'ensemble des dispositifs qui visent à soutenir chacune des étapes de production et diffusion des œuvres. Ça a pour effet d'uniformiser les critères de sélection et par extension les formes, les thématiques, les esthétiques qui circulent sur les réseaux. C'est pour ça qu'on a l'image de l'art contemporain qui est à la fois quelque chose de très divers et en même temps assez uniforme. Et ça, c'est parce que du coup, ouais, y a vraiment une uniformité de la manière de sélectionner. Et à la fois parce que les personnes elles sélectionnent que les personnes et œuvres qui correspondent à leurs critères, mais aussi parce que les personnes qui veulent exposer sur ces réseaux, elles adaptent leurs œuvres aux critères. Du coup, il y a un effet de réciprocité comme ça, qui renforce l'uniformité. Les écoles aussi, sous couvert d'espaces d'expérimentation, c'est aussi des puissants espaces de normalisation qui soumettent au code restreint des réseaux. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais un des trucs moi, que je trouvais intéressant dans les entretiens que j'avais, c'était que la manière dont les codes et les normes sont incorporés, c'est notamment par des attitudes de mépris et de dénigrement, notamment pendant les accrochages collectifs. Et au final, dans les entretiens, il y a pas mal de personnes qui m'ont raconté avoir changé de médium, de sujet ou de choses comme ça, parce que en fait, ils voulaient s'intégrer dans la classe et ils en avaient marre qu'on se foute un peu de leur gueule. Et du coup, ça passe comme ça par un mépris et des attitudes d'exclusion qui petit à petit font que les personnes s'adaptent. Là, je fais une grosse généralité, hein, il y a plein de différences dans les écoles d'art et les enseignements, mais en gros, de façon. Il y a des bons points. Mais de façon un peu générale, et après, moi, c'est mon enquête, elle date d'il y a quand même 5-6 ans, et c'est des artistes qui. Bon, je sais que les choses bougent, mais bon, ouais. Ça crée aussi. C'est un système du coup autosuffisant, mais qui est aussi clos sur lui-même. Parce que les agents du réseau ils refusent la qualification et le pouvoir de qualification aux personnes qui n'en sont pas issues. Ça, j'avais parlé avec une ancienne directrice de centre d'art qui me disait que pour elle, un artiste professionnel, ce que je lui demandais, c'est quoi un artiste professionnel, étant donné les rémunérations, on se pose un peu la question. Et du coup, elle me disait, un artiste professionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui est passé par les beaux-arts. Sinon, c'est un artiste amateur. Du coup, il y a vraiment, et c'est une ancienne directrice d'un centre d'art très connu. Enfin, du coup, il y a aussi ce truc où le droit d'aller sur les réseaux, c'est quand même, il faut avoir accumulé tous les marqueurs de professionnalisation du réseau. Et de toute façon, même si on acceptait des personnes amatrices, il y a quand même des codes qui sont très spécifiques et qu'on acquiert principalement sur les réseaux de l'art contemporain et notamment dans les écoles, et tout un capital social aussi qui s'acquiert dans les écoles. Du coup, ça exclut de fait toutes les formes qui ne correspondent pas aux critères définis par le réseau, ainsi que les personnes qui n'auraient pas suivi le processus dès les débuts. C'est une culture qui restreint énormément l'accès aux conditions matérielles de production et de diffusion des arts visuels publics et du coup qui renforce aussi l'uniformité des formes. Les conséquences de la concurrence. La concurrence aussi, elle a des conséquences sur les artistes et leurs relations. Ça crée. Les échecs professionnels que génère la compétition dans sa raison, ils sont hyper douloureux. Comme je vous disais, c'est un capital qui est lié à la personnalité. Ce qui veut dire qu'on compare des compétences naturalisées qui engagent toutes les facettes de la personnalité des aspirants. Ce qui fait qu'échouer, ça ne remet pas tant la question en un niveau d'apprentissage ou la qualité d'une réalisation précise que la légitimité de la prétention au statut d'artiste et par extension de l'identité sociale. La nature constamment remise en jeu de la qualité d'artiste, ça génère une incertitude identitaire qui précarise symboliquement les créateurs. Et ça, on peut facilement imaginer que ça offre pas des conditions propices à l'expérimentation parce que les personnes ont trop peur d'être déclassées si jamais elles se ratent et qu'on leur dit que ce qu'elles font, c'est nul. Malgré ce caractère extrêmement compétitif, l'importance de la cooptation dans la réussite des carrières créatrices, ça demande aussi à l'artiste de tisser énormément de liens. Et en fait, en réalité, la plupart de nos relations sociales, elles sont dans les réseaux de l'art contemporain. Nos amis, les personnes avec qui on relationne, etc., font partie du réseau. Ce qui fait qu'en fait, les mises en concurrence, elles nous insécurisent individuellement, mais elles nous insécurisent aussi socialement. Ça fait que ça crée des relations amicales hyper cheloues, où on est en fait amis avec nos adversaires, ce qui est un peu. Pas toujours très pratique. Un système clos sur lui-même qui subordonne les artistes au réseau, parce qu'on est aussi accro à l'art contemporain. L'évaluation des œuvres dans les tournois de comparaison, elle se fait notamment selon les relations qu'elles entretiennent avec l'histoire du réseau lui-même. Du coup, il faut référer à l'histoire du réseau pour pouvoir y rentrer. Du coup, les personnes, elles développent des pratiques artistiques autoréférentielles qui ne sont intelligibles qu'à condition de connaître et de comprendre les codes du réseau. Les artistes professionnalisés par et sur les réseaux institutionnels ont du coup du mal à en sortir, à la fois parce que c'est un réseau qui leur a été présenté comme la voie la plus légitime pour faire de l'art en école d'art, donc on a peur d'être déclassé si on va ailleurs, mais en plus, même si on essaye de le quitter, on rencontre des difficultés à professionnaliser des productions ailleurs que dans les réseaux de l'art contemporain, parce que nos formes, elles répondent qu'à ces codes très spécifiques. Ce qui fait qu'en fait, on est hyper dépendant au réseau et en sortir n'est pas si simple. Le fonctionnement en circuit fermé participe aussi à créer un art peu accessible à celles et ceux qui ne maîtrisent pas les codes spécifiques de la création contemporaine et son histoire, et il empêche aussi l'usage politique des formes qui sont dessus. Ça, c'est dû en partie au format court des expositions, qui ne permet pas d'ancrage durable des propositions dans le tissu social qu'elles prétendent influencer. Les sélections, en plus, elles sont motivées par des théories esthétiques déconnectées de l'écosystème qui environne les espaces de diffusion, et réalisées par des professionnels qui n'ont souvent aucun lien avec le territoire, ne répondent que rarement aux enjeux qui intéressent les populations locales. Souvent, les jurys, c'est des personnes qui se réunissent quelque part juste le temps du jury et après qu'ils repartent. Du coup, il n'y a pas forcément une pensée par rapport à ce qui se passe à l'endroit où les sélections sont faites. l'externalisation de l'appréciation place des intermédiaires entre les créateuristes et les usagers des institutions, une médiation qui interdit tout échange entre eux et réduit les usagers à d'impuissants regardeurs jamais écoutés. En fait, au final, on en parlait tout à l'heure, mais la véritable adresse des artistes dans ces réseaux, c'est pas les usagers des structures, mais c'est les curateuristes. En conséquence, les propositions artistiques, même collaboratives, elles sont restreintes à une dimension représentative sans effectivité dans le réel. Le réseau, il favorise aussi certaines catégories sociales et certaines cultures. Le système réseau de l'art contemporain, il répète pas n'importe quelle histoire de l'art. Il reproduit les cultures des élites politiques et économiques, parce que c'est vraiment l'héritage des beaux-arts, en y assimilant toutes les formes qu'il produit et diffuse. L'histoire et la théorie de l'art enseignée sur ces réseaux narrent depuis la plupart du temps, une chronologie est relativement stable avec des figures clés incontournables. Or, c'est l'histoire qui a été racontée par les détentrices du pouvoir, selon les époques et circonstances, élites religieuses, étatiques, économiques. Et du coup, comme je disais, c'est par rapport à cette histoire qu'on est sélectionné dans le réseau. Du coup, on n'arrête pas de réinvoquer les grandes figures de cette histoire de l'art. Et on est aussi obligé de rentrer nos formes, même si c'est des formes contestataires, à l'intérieur des codes de cette histoire. Du coup, c'est un processus qui norme mécaniquement les formes, même contestataires, même issues d'autres cultures, parce qu'elles sont forcées de s'adapter à ce référentiel. Et puis celles qui ne peuvent pas du tout s'y adapter, elles sont juste pas sélectionnées. Les processus de recrutement et d'évaluation, ils sont aussi traversés par les mêmes rapports sociaux que ceux qui structurent le reste de la société et des sociétés impérialistes occidentales. Voilà. Oui, c'est la vie. En gros, pour aller assez rapidement, les jurys d'entrée, etc., ils sont traversés par des biais sexistes, racistes, validistes, etc., parce que les sélections, elles sont formées autour d'un archétype qui est l'archétype d'un créateur blanc, masculin, hétérosexuel, qui est aussi issu de l'histoire de l'art occidental. Et du coup, ça continue aussi à restreindre l'accès, et à ces restrictions d'accès, forcément, sur les réseaux, il y a la question des rémunérations, parce que forcément, pour même pouvoir espérer travailler dans les réseaux de l'art, étant donné les rémunérations, en général, il vaut mieux avoir un patrimoine. Et du coup, tout ça, ça fait qu'il y a une énorme homogénéité parmi les artistes, parce que c'est très difficile de passer les différentes étapes et accéder en fait aux moyens de production des réseaux publics de l'art contemporain. Un petit point aussi, parce que moi, j'avais, dans mon mémoire, je parle pas mal de ça aussi, de ce que ça fait aux luttes sociales, parce que ce que je disais, l'art contemporain récent, il prétend aussi avoir une action politique, et notamment dans les critères de sélection récents, il y a de plus en plus de sélections de personnes qui participent à des associations, qui ont une activité militante, qui ont, en fait, ça fait partie même du CV, pour pouvoir entrer sur et être sélectionné, il faut avoir un capital militant. Et du coup, ça vient avec l'idée d'avoir un rôle social, etc., ou d'exposer des minorités, des personnes issues de minorités qui viennent du coup présenter des cultures minoritaires, etc. Mais du coup, ce que je disais, c'est que c'est un système hyper élitiste qui vient en fait finalement concentrer les valeurs et les ressources sur quelques élus et qui va évincer énormément de personnes de ces groupes. La sélection experte, elle va ôter aux opprimés le pouvoir d'établir elles-mêmes le programme de leur lutte. C'est en fait c'est l'inverse de la démocratie. C'est les personnes au pouvoir qui choisissent pour les autres ce qu'elles ont le droit d'exprimer. La concurrence qui structure les réseaux, elle encourage indirectement les gens à tirer profit de leur vécu de discrimination ou de leur implication dans des groupes militants, ce qui fait que ça vient créer de la concurrence dans des espaces qui sont normalement censés être des espaces communautaires de lutte collective. Ça fragilise les solidarités, ça éloigne de certains sujets politiques les personnes qui ont peur de faire preuve d'opportunisme. La sélection par le haut, ça ne permet pas un vrai ancrage politique. La précarité endémique dont je parlais tout à l'heure, ça fait aussi qu'on est hyper dépendant des endroits où on est sélectionné, ce qui fait qu'on peut être obligé de travailler pour des fondations ou des institutions avec lesquelles on est par ailleurs opposé dans ce qu'on dénonce, dans ce qu'on raconte. Du coup, ce qui fait qu'on est les tokens parfaits. Et on est obligé après de produire des formes qui servent des logiques de gentrification, qui viennent masquer des politiques publiques, etc. Mais en fait, on a très peu de marge de manœuvre. Du coup, il y a vraiment un mécanisme d'assimilation des formes et on est un peu forcé de social-washer des entreprises pour très peu d'argent au final, parce que on est très peu payé, donc on est aussi des politiques publiques qui coûtent rien. Du coup, en résumé, c'est un modèle qui... Bon, c'est assez négatif, hein. Ce qui explique que les gens qui m'entouraient, on avait envie de partir, on était un peu deg. Mais du coup, en résumé, un modèle qui élitaire, qui fracture les communautés, invisibilise les personnes, beaucoup de personnes, cause et mode de lutte qu'elles ne choisissent pas, désamorce potentiellement qui tue des expressions, en déracinant les formes. Du coup, bah, voilà, les visées émancipatrices ne se réalisent pas, tout ça. Donc, partir. les alternatives, ouais, c'est parfait. Du coup, petit résumé un peu des alternatives observées. Moi, j'ai plein de moyens de chercher à quitter les réseaux de l'art, mais moi, mon enquête, elle est vraiment orientée par mon propre entourage. Et moi, autour de moi, il y avait plein de gens qui se tournaient vers l'artisanat. Et j'ai été travaillé dans des groupes militants. Du coup, c'est ça qui axe ma recherche. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est exhaustif en termes de moyens. Mais du coup, moi, j'ai étudié des personnes qui allaient vers l'artisanat, à la fois parce que c'était un moyen de gagner l'argent, mais aussi un moyen de retrouver un lien direct avec les publics, au final, parce qu'il y a une relation de commerce qui fait que forcément, il y a un échange qui se crée. Et puis, il n'y a plus besoin d'avoir tout un appareillage sémantique pour justifier de l'utilité de ce qu'on fait. Mais par contre, personne n'a vraiment réussi à démissionner chez les personnes que j'ai suivies. Et du coup, à la fois, il y a des choses que les personnes trouvaient dans les moyens qui étaient mobilisés, à la fois, il y a des choses que les personnes ne trouvaient pas. Dans l'artisanat, notamment, perte de possibilité d'expressivité, il y a perte de possibilité d'expérimenter aussi, parce qu'il faut être rentable, tout simplement. Et puis, le regard posé sur les formes, c'est des formes qui sont gardées comme des objets usuels, et du coup, ça ne permet pas de construire tout un langage sémantique comme peut le faire un regard esthétique dans les réseaux de l'art. Et tout ça, ça faisait que les personnes, finalement, elles oscillaient plutôt dans la mesure du possible, sachant qu'après, ça crée des contraintes temporelles, mais voilà. Après, les personnes que j'ai suivies, c'est, en termes plus collectifs, c'était un groupe affinitaire et militant qui s'est réuni pendant un mouvement social. L'implication dans le mouvement social, ça a vraiment politisé, et ça a créé une conscience de classe et vraiment une conviction qu'on ne peut pas lutter depuis l'intérieur des institutions, par rapport à des personnes moins mobilisées dans le mouvement social, qui vont, en tout cas moi c'est ce que j'observais à ce moment-là, qui à ce moment-là, défendaient plus la posture de dire « mais non, on peut lutter depuis l'intérieur, aller porter des nouveaux regards, des nouveaux discours, etc. » Là, le fait de participer à des cortèges, d'être dans un mouvement social qui était un mouvement social pendant les luttes contre la réforme des retraites, c'était vraiment un truc qui a amené petit à petit à dire en fait non, il faut qu'on soit en antagonisme avec nos financeurs, avec nos employeurs, parce qu'il y a vraiment des différences d'intérêts, il faut vraiment une conscience de classe au sens premier du terme. Il y a eu, qui est né de ça, la création d'une web radio où on produisait nos propres contenus, qu'on diffusait, et il y avait vraiment un entremêlement entre des pratiques hyper axées militantes, des trucs de pédagogie, des lectures de tracts, et vraiment des propositions plus expérimentales. Et ça, c'était hyper intéressant. Enfin, une espèce de modèle un peu, moi que j'ai trouvé assez ouf, mais ça a fonctionné hyper bien que pendant le Covid. En fait, au final, il n'y avait pas de... Le problème de cette radio, en fait, elle refusait toute subordination à des intérêts de financeurs, etc. Mais du coup, on n'avait pas du tout d'argent. Et c'était pas du tout un modèle économique possible pour s'émanciper des réseaux de l'art. Et au final, tout le monde a recommencé à travailler dans les réseaux de l'art contemporain après le Covid. Et petit à petit, moins de temps, etc. Du coup, la radio s'est un peu éteinte. Mais dans le principe, il y avait un fonctionnement qui était hyper chouette. Et du coup, moi, ce que je retire un peu de tout ça, c'est... même s'il n'y a pas eu de redéfinition, de démission totale, il y a quand même une redéfinition des priorités et une autre manière de se mobiliser dans les réseaux de l'art. C'est la partie suivante. Ce qui permet pas mal de trucs, des choses vraiment à des échelles individuelles et puis des choses petit à petit plus collectives. Notamment, un truc que je retiens, c'est qu'on a perdu toute croyance dans la validité des sélections. Bon, enfin, on essaye. Des fois, c'est quand même dur, mais pas de mais en tout cas, il y a moins ce truc de prestige accordé à la sélection, à la réputation, etc. Et ça permet de voir déjà les réseaux de l'art comme un moyen parmi d'autres de faire de l'art. Et du coup, s'autoriser à aller explorer d'autres endroits qu'on aurait estimé moins légitimes. Et du coup, on aurait peur de perdre en réputation, d'évaluer notre travail, etc. Ça permet aussi un usage stratège des politiques publiques en se disant « en fait là j'ai de la thune, je vais un peu tricher sur mon dossier pour réussir à avoir cet argent, et puis après je vais en faire complètement autre chose ». Ça permet la construction aussi d'affinités sur des critères politiques plutôt que de réputation. Et ça c'est assez important, ça change complètement les rapports entre travailleurs. Et c'est notamment je trouve, ce qu'on retrouve vachement dans les mouvements de culture en lutte, etc. qu'il y a aujourd'hui. Toujours en antagonisme aussi avec plutôt qu'en solidarité, comme c'était souvent le cas, avec les personnes qui financent. Ça veut dire ne plus prioriser comme c'était souvent le cas, ne plus prioriser toujours le temps de la pratique individuelle sur des temps d'organisation politique. Ça veut dire en gros, basiquement, plutôt qu'aller à un vernissage, aller à NAG. Ça veut dire refuser de participer et de s'organiser contre les événements et organisations qui participent à du social machine. Parce que, en fait, si on met en priorité diffuser son travail en se disant notre parole est magique, ça veut dire qu'on peut accepter tout type d'endroit, parler à n'importe quel endroit. Alors que là, si on se dit non, notre parole, elle parle dans un contexte à certaines personnes, ça veut dire qu'on peut refuser de s'exprimer à certains endroits. Possibilité de refuser la rémunération, mais donc ça ouvre quand même ce truc-là, et notamment si ça s'organise en boycott collectif, et ça permet aussi de s'opposer au système d'oppression et d'exploitation en s'engageant dans des syndicats et des collectifs, du coup pour organiser justement ces boycotts, ces refus, etc. Et enfin, pourquoi lutter collectivement? Ça dépasse mon mémoire, mais je pense que c'est important d'avoir un peu des pistes. Suite à cette enquête, donc, suite à cette enquête, et avec mes recherches actuelles, moi, en fait, je fais des recherches sur les cultures de genre dissidentes à Marseille, ce qui, en fait, change mon axe, parce que je suis plus sur un système de production, mais sur une culture en soi. Et du coup, ça m'amène à voir en fait les raisons de la création sociale contemporaine comme des espaces de manipulation de signes entre des personnes multitâches, des espaces qui sont matériellement et symboliquement réservés à des catégories sociales, qui ensemble font culture, tout autant qu'ils nourrissent, assimilent et effacent des cultures au sens anthropologique du terme. Et du coup, c'est des circuits parmi d'autres, mais qui ont ceci de spécifique de contrôler et de conditionner l'accès aux ressources de l'État et des collectivités. Du coup, pour moi, l'enjeu, c'est pas tellement forcément de faire des actions de démocratisation culturelle et d'aller amener la culture au public, mais plutôt l'enjeu c'est que tout le monde dispose des conditions matérielles nécessaires à la manipulation collective des signes. Du coup, en d'autres termes, c'est pas tant les actions, ça je vais bien aller loin, ce que je viens de dire, que celles qui cherchent à démocratiser l'accès et le contrôle de la chaîne de production diffusion de ces formes. C'est donc la question de la propriété et des moyens de production et celle du pouvoir d'organiser et définir le travail sur les qui m'intéresse. Pour ça, ça veut dire qu'il faut, sur un terme des idées, et puis après dans le terme des pratiques, il faut qu'on commence à réfléchir à la reconnaissance de la valeur du travail artistique en dehors des critères patrimoniaux du droit d'auteur et en dehors du référentiel de l'originalité absolue, de la croyance dans le talent et dans le génie. Du coup, il faut abandonner ces représentations dans nos têtes, mais aussi, surtout, faire en sorte qu'elles n'organisent plus le travail de l'art. Pour ça, il y a des pistes très concrètes. Lutter pour démocratiser l'accès aux activités de création et remplacer la rémunération aux droits d'auteur, c'est un début de piste pour démocratiser l'accès au métier de la création. Parce que comme je disais tout à l'heure, 1500 euros par an, ça ne permet pas à tout le monde. Et ça, on a un truc très concret, qui est une proposition de loi pour une continuité de revenus des artistes auteurs, grosso modo une forme d'intermittence qui est actuellement discutée à l'Assemblée. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Mais en gros, ça permettrait d'avoir une continuité de revenus pour les personnes d'environ 1212 euros net par mois, ce qui changerait tout le salaire annuel, mais mensualisé. Fois 12. Du coup, voilà. Donc, intérêt non exhaustif, ouvrir la possibilité d'exercer des métiers artistiques à des personnes qui jusque-là ne pouvaient pas y aller, rémunérer les moments entre les moments de diffusion. Et du coup, ce qui veut dire moins d'emplois alimentaires et plus de temps pour s'organiser, plein de choses comme ça. Et après, un truc qui est important aussi avec cette continuité de revenus, c'est que ça serait ça sera la première fois où il y aura une continuité du revenu qui sera détachée de la condition d'emploi. Et ça, c'est... après, moi, j'ai vraiment un logiciel de pensée qui est fabriqué par toute la pensée de réseau salarié et d'un prio. En gros, vous verrez, j'arrive petit à petit, l'idée de revenu, de salaire à vie, etc. Du coup, ça serait la première fois, enfin, c'est une voie possible. C'est comme ça que le réseau salarial la défend, une voie possible vers le salaire universel. Autre chose, autre projet aussi fabriqué par... autre chose importante, c'est lutter contre la mise en concurrence et la sélection experte. À très court terme, on peut lutter pour la transparence des jurys d'attribution, exiger la transparence des jurys d'attribution qui devrait être publique parce que c'est des fonds publics, c'est pas normal qu'on n'y ait pas accès. Pour la transparence des critères de sélection, des délibérations, après petit à petit lutter aussi pour définir nous-mêmes collectivement et pour que les publics puissent définir les critères de sélection, etc. Et à plus long terme, L'autogestion, j'arrive au projet de mise en sécurité sociale du secteur de la culture, qui est aussi un projet défendu par ses pairs de salariat. Par l'autogestion, l'idée c'est l'autogestion de caisses de cotisation et de financement des formes artistiques sur le modèle d'une mise en sécurité sociale de la culture, qui est inspirée du fonctionnement de la sécurité sociale et fondée sur une cotisation au régime général et au contrôle populaire. Et voilà, et après, hyper important si je parle de ça aussi, c'est que Réseau Salariat, c'est quand même des gauchistes blancs 6-7. Et du coup, il y a vraiment un peu une urgence aussi à s'approprier toutes ces pensées-là, avec des pensées queer, des pensées décoloniales, etc., qui sont assez absentes pour l'instant des pensées de Réseau Salariat. Donc il faut vraiment s'emparer de cette idée, qui je pense est super riche. Dernière slide, syndicat. Et voilà. Merci.